de la Gen Z qu'elle est désengagée, paresseuse, solitaire, accro au réseau. Et si on prouvait le contraire ? Bienvenue dans Jeunes et Cons, l'émission qui part à la rencontre des jeunes qui font bouger la Lorraine. Julie va montrer une autre image de notre génération telle qu'elle la connaît, active, déterminée et combattante.
Bonjour à tous. Aujourd'hui sur RCN, on accueille Camille. Bonjour Camille.
Bonjour Julie.
Camille, aujourd'hui, on n'enregistre pas cette émission dans le studio de la radio. On se trouve littéralement à l'autre bout du monde, dans la campagne la plus profonde de Tanzanie. Bon, comme on commence à bien se connaître, toutes les deux, on a un peu peur de s'esclaffer en plein milieu de l'interview, mais on va faire un effort. Si on est là, c'est parce qu'on s'est toutes les deux engagées dans une mission de solidarité internationale. On contribue à la construction d'un lycée professionnel. Moi, c'est ma toute première mission de solidarité internationale, je ne suis ici qu'un mois. Toi, non seulement ce n'est pas ta première expérience, mais en plus, tu es ici sur le terrain à Magougou depuis 3 mois. Engagement que tu t'apprêtes à renouveler en tant que service civique, 3 mois de plus. Camille, tu as suivi des études de sciences politiques dans le domaine des affaires internationales et tu t'es spécialisée ensuite dans l'étude des genres. On verra plus tard si ces études ont eu un impact sur ta vision de l'engagement. Alors, moi j'ai plein de questions et c'est pour ça que j'ai demandé à Thomas, le directeur de la radio, si on pouvait faire une petite exception et enregistrer dans ce cadre, ma foi, très bucolique, en Tanzanie. Camille, dès que je suis arrivée, toi et Hugo, également volontaire en service civique, vous avez tenu à ce que je comprenne bien la différence entre aide humanitaire et solidarité internationale. Je pense qu'il est important de la rappeler à l'antenne, à la radio.
Ouais. Alors en fait, comme tu l'as dit, on fait de la solidarité internationale et il y a beaucoup de gens, de jeunes surtout, qui partent en mission et qui vont dire qu'ils ont fait une mission humanitaire. Et c'est hyper important de faire la différence parce que quand on parle d'humanitaire, on parle d'aide dans l'urgence, quand il y a eu une catastrophe, ça s'appelle catastrophe naturelle ou un conflit, mais que c'est une question de vie ou de mort en fait. L'intervention, il faut que... c'est pour sauver des vies dans l'immédiat, il faut que ce soit tout de suite... Et il faut que ça suive une catastrophe. Alors que quand on parle de solidarité internationale, en général, on parle sur quelque chose qui est plutôt sur du long terme. Donc, par exemple, là, le programme qu'on a, il est depuis... le partenariat qu'on a en Tanzanie, il est là depuis 2021. Donc la construction du lycée, elle prend longtemps. C'est des projets qui ne répondent pas à un besoin de vie ou de mort, mais plutôt à des questions de développement. En général, d'ailleurs, on se base sur tout ce qui est les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc il y en a 17, je ne vais pas les rappeler, mais c'est pour quelque chose sur du long terme et en général c'est de la coopération internationale. On essaie de faire des choses ensemble. Humanitaire, ça peut vraiment être un pays qui vient aider une zone de catastrophe sans spécialement travailler avec les personnes sur place. Ils essayent de travailler avec les personnes sur place, bien évidemment. Mais s'il y a un besoin urgent, immédiat, c'est juste le plus rapidement possible. Alors que là, c'est mettre en place, faire attention à la culture et quelque chose qui va durer sur le long terme pour aider au développement de la zone dans laquelle on travaille.
Oui, alors, on s'excuse pour les petits bruits qui polluent un peu notre interview. On n'est pas les seuls ici. On est une bonne dizaine dans la team Amagougou, entre les chiens, les vaches et les hyènes. Ils risquent d'avoir quelques pollutions sonores. Mais justement, par cette question du local et par cette question de travail spécifique, est-ce que tu peux nous parler de la différence entre le volontourisme et la solidarité internationale? Et qu'est-ce que c'est le volontourisme? Parce que c'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus quand on essaye de s'engager et surtout que les collectivités locales qui appellent à l'aide rencontrent.
Ouais. Alors en fait, quand on parle de volontourisme, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que je trouve que c'est quelque chose d'assez négatif et problématique, mais il y a des discussions dessus, je sais que pas tout le monde est d'accord avec cela, mais volontourisme, c'est vraiment... Le tourisme en premier, en fait, c'est l'idée de voyager et ensuite de profiter de son voyage pour aider à faire quelque chose, participer à un projet sur place. L'idée première, c'est de découvrir un pays, une culture, des paysages, quelque chose. Voilà, l'idée du voyage, du tourisme. Alors que quand on part en solidarité internationale, le but premier, c'est de soutenir une organisation locale ou une initiative locale. Le voyage, si tu as du temps libre sur tes week-ends, bien évidemment que autant voyager, en profiter pour visiter le pays.
À Noël, on est parti au Kilimandjaro.
Par exemple, parce qu'on avait des jours libres. Mais voilà, t'es là pour travailler, t'es là pour soutenir. Et en fait, le problème avec le volontourisme, déjà, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compétences particulières qui s'engagent. Alors que dans la solidarité internationale, on essaye quand même d'avoir des gens qui vont servir à quelque chose, en fait. Donc certes, une mission, c'est là pour apprendre, mais t'es là pour contribuer et pour servir à quelque chose, parce que si tu vas faire perdre du temps aux personnes sur place ou au projet, ça peut vraiment être... Ça peut vraiment être problématique sur le long terme au niveau efficacité et du coup au niveau résultat forcément. Et en fait, quand tu sur le volontourisme, tu peux facilement avoir quelqu'un qui, par exemple, n'est pas en France, n'aurait jamais été qualifié pour apprendre des choses à des élèves dans une école et qui va le faire dans un autre pays et en plus qui va profiter peut-être prendre deux jours de vacances par semaine pour avoir des week-ends de 4 jours et pour voyager. Donc là, t'as pas un vrai impact. Et il y a tout cet aspect au niveau personnel, au niveau de ce que c'est la mission, mais il y a aussi tout un aspect plus grand et institutionnel, malheureusement, où en fait il y a beaucoup d'organisations, malheureusement, qui vont créer des missions qui ne répondent pas à des besoins réels. Et nous, on travaille avec Lifetime Project et on essaye vraiment de répondre à des besoins qui sont exprimés par la population locale. C'est la population locale, les organisations locales qui font les analyses de terrain parce qu'elles savent ce dont ils ont besoin. Alors que il y a des missions qui s'appellent aussi missions de solidarité internationale, mais qui au final sont du volontourisme. Et c'est très important de se renseigner, de bien lire les descriptions et puis même de chercher des avis quand on veut s'engager, mais qui vont ne pas répondre à des vrais besoins, voire créer des faux besoins pour proposer des missions. Il y a eu des cas où il y avait des organisations où c'était des faux orphelinats. En fait, c'était des enfants qui avaient une famille, qui ont été retirés à leur famille, voire, qui vivaient dans des conditions horribles, juste pour qu'il y ait des volontaires. Et en fait, quand il n'y avait pas de volontaires sur ces missions, il ne se passait rien dans ces orphelinats. Et ce n'était pas des enfants qui avaient spécialement besoin d'aide de base. Et c'est hyper problématique, forcément, parce qu'on arrive à... dans des situations où il y a des abus des droits de l'homme énormes et en fait les gens s'en rendent pas compte, ça crée tout un business autour de ça qui est horrible tout simplement. Mais c'est la différence principale, je voudrais dire, c'est en fait qu'est-ce que tu priorises, pourquoi est-ce que tu vas aller sur le terrain et le fait de se dire je suis là pour voyager ou je suis là pour soutenir.
Oui, c'est ça, comme ce que tu disais, comment est-ce qu'on repère le volontourisme? Souvent quand on cherche à s'engager, les premiers sites que l'on trouve nous demandent de payer des milliers et des milliers d'euros. Voilà, c'est les premiers sites qu'on trouve en ayant tapé sur la barre de recherche « je veux m'engager à l'international » par exemple. Le problème c'est que ces milliers d'euros, c'est pour aller on ne sait où et on ne sait pas où va finir cet argent. Donc c'est notamment une façon de repérer les arnaques, si je peux mettre entre guillemets. Après souvent... Le volontourisme, c'est quelque chose qui vient du volontaire qui s'engage plus que de la mission internationale qui va suivre.
Après, quelque chose aussi qui peut aider à repérer, c'est que si c'est une organisation qui est présente dans presque tous les pays possibles et inimaginables, ou alors des pays qui vont être des destinations très prisées, donc par exemple beaucoup de pays qui vont être en Asie du Sud-Est, mais aussi beaucoup de pays en Amérique latine,
à Bali.
Voilà. En général, le Moyen-Orient, c'est un peu moins prisé.
Tu m'étonnes.
Mais ou en Afrique, sur les côtes principalement. En fait, il faut se dire que c'est possible. Il y a des organisations, des grosses organisations qui travaillent dans beaucoup de pays, bien évidemment. Mais c'est possible que l'organisation ne soit pas spécialisée dans quelque chose en particulier, qu'en fait, elle n'ait pas un vrai impact. Et voilà, comme tu le disais, le prix, faut que le prix soit justifié, soit transparent, qu'on sache pourquoi on paye. Une mission, c'est rarement gratuit. C'est vraiment une mission de solidarité internationale, c'est très rarement gratuit parce que justement les gens qui s'engagent en général sont assez jeunes et n'ont pas les compétences particulières, donc c'est plus le fait de payer pour aller quelque part. Mais il faut savoir à quoi sert son argent et normalement une organisation qui est réglo te dira il y a tant qui va servir en tant que don, il y a de l'argent qui va servir à ce que tu aies une assurance. Ça aussi c'est important de savoir que l'organisation avec laquelle tu pars doit t'assurer. Est-ce qu'il y en a qui vont prendre en compte les billets d'avion ou pas? En général, non. Le logement, le fait d'être nourri, tout ça, mais il faut faire un peu attention à ce qui est proposé.
Oui, et puis c'est ça, bon, je reviens très rapidement sur cette question des compétences, après on passera à la question suivante. Mais le problème, on en parlait avec Hugo, donc l'autre volontaire qui est ici avec nous, pareil, en service civique en Tanzanie, à Magougou. Enfin, ici, si tu t'engages sur le long terme, en faisant une mission, qualifiée ou non, t'accepteras jamais d'être payé au salaire local. Tandis que ben, une personne qualifiée ici, qui habite proche d'ici et qui n'a pas de métier, qui est en recherche d'emploi, elle en sera privée. Et c'est assez terrifiant. Ouais. Enfin bref, comme je le disais, c'est pas la première fois que tu t'engages dans une mission de solidarité internationale. La première fois, c'était en Bolivie, tu avais 17 ans. Raconte-nous.
Ouais, alors la première fois, bah, c'était aussi avec Lifetime Project, donc vraiment j'ai fermé la boucle. Mais en fait, je voulais travailler dans... c'est l'erreur de base, je voulais travailler dans l'humanitaire. Quand j'étais au lycée, je savais que voilà, je voulais être sur le terrain et je comprenais pas vraiment ce que ça veut dire humanitaire, parce qu'au final, je pense que je pensais plutôt à de la solidarité internationale. Et je me suis dit, bah, avant de choisir ce que je veux faire pour mes... Enfin, où est-ce que je vais partir pour mes études et ce que je vais faire exactement comme études, ce serait bien de partir sur le terrain et voir si c'est quelque chose qui me plaît, même si c'est... Enfin, on va pas se mentir, quand on part sur une mission de un mois, c'est pas la même chose que de faire ça toute sa vie. Bien évidemment, t'as pas du tout les mêmes aspects. J'étais encore un peu jeune. Et
alors moi, je tiens à préciser que si je ne suis là qu'un mois, c'est parce que j'ai cours.
Et t'es plutôt utile sur le terrain.
Merci.
mais voilà, je me suis dit que je voulais voir comment ça se passait. Et puis même, un mois, je me dis si un mois ça se passait mal, c'était sûr que c'était pas ce qu'il me fallait. Ça s'est super bien passé. Donc je suis partie en Bolivie à Cochabamba et je travaillais dans un centre de réinsertion pour les jeunes filles qui ont été victimes de trafic, de traite humaine. Ou de violence, et en fait elles étaient donc dans ce centre pendant quelques mois, le temps de casser leur connexion en fait avec tout ce trafic, parce que c'était des jeunes filles très jeunes, elles avaient en général entre 8 et 15 ans. Et voilà, il y avait tout un système qui est toujours en place, hein, malheureusement, dans la traite humaine, en tout cas en Bolivie, où les hommes en particulier qui prenaient ces jeunes filles leur disaient qu'ils étaient leurs copains, qu'ils étaient là pour prendre soin d'elles, et en fait du coup si on les laissait sans passer par ce centre de réinsertion, elles allaient retourner vers eux parce qu'elles pensaient qu'elles étaient dans une relation normale et amoureuse et que c'était normal de faire ça parce qu'elles étaient très jeunes. Et du coup voilà, donc je travaillais dans ce centre là, j'étais volontaire dans ce centre là pendant un mois. J'ai principalement fait des cours d'art, donc de dessin, etc., pour aider à...
Parce que toi-même, tu dessines.
Ouais, parce que okay. Je dessine, je peins, et puis je trouve un intérêt dans l'art. Donc,
et c'est toi qui avais proposé cette activité ?
Ouais, j'ai rencontré Laetitia, donc la directrice de Lifetime, et on avait discuté un peu de justement mes compétences, comment je pourrais aider, ce que je pourrais faire sur le terrain. Et voilà, moi j'avais dit que je dessinais, que j'étais très intéressée par tout ce qui est art-thérapie, et par contre, je suis clairement pas thérapeute, enfin thérapeute, psychologue ou quoi que ce soit, mais que voilà, je pouvais aider au moins sur des ateliers comme ça, ou sur le fait de s'exprimer. Donc j'étais là avec une artiste qui faisait des études d'art et qui maintenant expose, etc. Et on travaillait tous les deux pour créer des projets pour ça aider à renforcer la confiance en soi et puis aussi à penser à autre chose, parce que forcément quand t'as une vie très difficile, c'est bien des fois de s'échapper un peu à travers l'art. Donc je faisais principalement ça. Et ouais, j'étais là-bas pendant un mois. Ça s'est très bien passé. Le départ était très très dur. C'est là où je me suis dit, ça va peut-être être ce qui sera compliqué dans ma carrière, de quitter, de vivre des choses très fortes. Et de
Parce
devoir,
que tu t'étais attachée avec les bénéficiaires, parce que ça te plaisait ce que tu faisais?
Ouais, les deux. Enfin, j'adorais ce que je faisais. Et oui, un attachement avec les bénéficiaires où maintenant j'apprends. Et puis là, en Tanzanie, on est sur le terrain, on n'est pas avec des bénéficiaires directs, parce qu'on est sur de la construction. Donc même maintenant, j'ai appris à prendre du recul. Si je travaille avec des jeunes, malheureusement, enfin, tu peux t'attacher d'une certaine manière, mais voilà, faut savoir que c'est temporaire, que tu vas pas rester dans leur vie pas pour toujours. Et oui, en fait, c'est juste que à force, on s'entendait super bien, et puis tu deviens un peu protectrice. Enfin, t'as un sentiment protecteur envers ces personnes. Puis elle nous avait fait plein de cadeaux au départ, elle nous avait fait des lettres, etc., que j'ai toujours d'ailleurs affichées dans ma chambre d'ado.
Enfin, fait, c'est ce que je me posais comme question, moi, surtout en arrivant et en m'engageant dans cette mission en Tanzanie sur la construction du lycée dont on parlera juste après. C'est, est-ce que ce manque social, ça te manque pas ici, 6 mois en Tanzanie? Est-ce que tu te reconnais quand même dans le projet, même si ce que tu dis, c'est vraiment que ce que t'as préféré, c'était les relations avec les bénéficiaires?
Alors, en soi, là, on a quand même une relation assez proche avec les personnes avec lesquelles on travaille et du coup des personnes locales. Après, moi, c'est sûr que voilà, dans mes études et dans mon parcours, de manière générale, je suis plus sur la partie sociale, enfin, la partie avec des gens. Mais non, j'avoue que là, sur ces 6 mois, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me manque. Enfin, du coup, ça fait 3 mois que je suis là, il me reste encore 3 mois.
Parce que le projet te plaît.
Parce que le projet me plaît, parce que je sais ce pourquoi je travaille, et puis aussi parce que j'ai grandi, j'ai pris de la maturité, on va pas se mentir. Je sais que, voilà, enfin, je suis là pour l'impact que ça va avoir sur le long terme. Après, je dis pas que mon travail va avoir un très grand impact, mais voilà, de participer à ce projet pour des gens plus tard, pour des bénéficiaires. Et après, je pense que ça facilite la chose, en fait, de pas avoir de bénéficiaires, parce que justement, ça, dès là, je pense que ça va être assez difficile de partir de la Tanzanie et de dire au revoir à toute l'équipe, parce qu'on habite ensemble, on travaille
ensemble.
Et qui
est très drôle, très dangereux, et qui prend soin de nous, surtout.
Voilà, exactement. Enfin, ça a l'impression d'avoir 12 grands frères en permanence, donc forcément, ça va être difficile de dire au revoir. Donc je me dis, s'il y avait des bénéficiaires en plus, forcément, au bout de 6 mois, je me serais attachée, puisque au bout d'un mois, je m'étais attachée. Ouais, je pense que ça aurait été encore plus compliqué, donc au moins là...
Okay. Ben, merci Camille pour cette première partie d'émission. Alors, on va écouter la chanson Niama. C'est la chanson préférée de l'un des membres de notre équipe, ici en Tanzanie. Ben, c'est ce qu'on disait, c'est un de ceux qui nous fait le plus rire. C'est simplement une chanson qui supporte l'équipe de Dar es Salaam, donc l'équipe de foot, Simba. On l'a écoutée plusieurs fois, alors je trouvais ça sympa de la passer.
Sisi
Jeunes et cons sur RCN, l'émission qui part à la rencontre des jeunes qui font bouger la Lorraine.
On se retrouve sur RCN pour cette deuxième partie d'interview avec Camille qui s'engage pour la construction d'un lycée en Tanzanie. Camille, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir notre mission à Magougou. La mission rejoint le cadre du partenariat entre notre association mère Lifetime Projects et la Jabungu Foundation. Lifetime Projects est dans une logique d'aide locale uniquement. Pourquoi ?
Donc justement, par rapport à ce qu'on a discuté plus tôt au niveau du volontourisme, des choses comme ça, pour avoir un impact qui est concret et qui est utile, un impact positif, donc concret et utile, avec des associations locales. Donc dans tous les pays dans lesquels on travaille, il y en a 7, on travaille toujours avec des communautés locales, donc soit en partenariat avec une organisation sur place, comme c'est le cas en Tanzanie avec la Jabungu Foundation, ou des fois il y a des branches qui ont été créées de Lifetime. Par exemple en Bolivie il y a des Añas dos Sueños qui dépendent de Lifetime, c'est juste qu'en Bolivie tu peux pas avoir un nom en anglais, c'est obligé que ce soit en espagnol. Ou au Cameroun, c'est Lifetime Projects Cameroun. Mais c'est des locaux, des personnes sur place qu'on connaît qui gèrent l'association. Donc c'est pas depuis la France on gère ce qu'ils font, c'est voilà, vraiment des projets locaux. Et voilà, c'est pour être sûr que l'impact sert, enfin que ce qu'on fait ça sert à quelque chose, que ça répond à une vraie demande sur place. Donc je sais pas si tu as la question plus tard ou si tu veux que j'explique comment ça a commencé le partenariat entre Lifetime et Jabungu. Ouais, ouais, mais en fait c'est vraiment, normalement Lifetime travaille toujours dans des cultures qu'on connaît. Donc la Bolivie c'est parce que notre directrice a habité en Bolivie pendant longtemps. La Colombie aussi, elle y a habité pendant longtemps, et le Cameroun, c'est parce qu'elle connaissait beaucoup de gens de la diaspora camerounaise en France, et donc elle avait des contacts, donc c'était jamais, on n'allait jamais dans un pays les yeux fermés qu'on ne connaissait pas, et la Tanzanie, on ne connaissait pas, donc comment on s'est retrouvés là ? Il y a une des bénévoles qui est là depuis le début de Lifetime Project, donc depuis plus de 10 ans, qui a pris un blablacar pour aller à Strasbourg et qui a discuté sur le chemin avec le conducteur voilà, ce qu'elle faisait à Strasbourg, de l'association, de son travail. Elle a dit « Ah bah c'est marrant, j'ai un ami en Tanzanie qui fait la même chose et je te passerai son contact. » Puis elle était en mode « Oui bon, passe-nous ce contact, mais il y a très peu de chances qu'on travaille ensemble parce qu'on ne connaît pas la Tanzanie. » Et en fait, ils sont super bien entendus directement, donc entre Agustino, qui est le directeur de Jabungu Foundation, et Laetitia, la directrice de Lifetime Project. Quand ils ont discuté des sujets qui les intéressaient, donc tout ce qui est accès à l'éducation, les opportunités pour les femmes, et même on a toujours un peu une protection environnementale, enfin une partie protection environnementale sur nos projets. Ils se sont rendus compte qu'ils finissaient les phrases l'un de l'autre et du coup Lifetime est parti en Tanzanie pour rencontrer Agostino, voir le projet. Ils ont décidé de co-construire le projet ensemble. Mais voilà, c'est vraiment à chaque fois des projets qui viennent d'une demande locale et pour éviter toute l'approche post-colonialiste du sauveur blanc aussi. Juste l'idée de dire on est occidentaux, on sait, parce que j'ai parlé de développement en début d'émission. On parle, le développement, les ODD de l'ONU sont quand même très basés sur des normes occidentales qui ne prennent pas forcément en compte les différences dans le monde, les différences culturelles et le fait que le développement, en fait, c'est pas spécialement le développement le développement n'est pas spécialement le développement économique et la poursuite du capitalisme. Et donc on est obligé de travailler avec ces objectifs-là parce qu'on a besoin de financement et que ces financements en général sont accordés en fonction de ces objectifs, mais on n'est pas là pour imposer notre vision, on est juste là pour soutenir. Et il y a beaucoup de financements, en fait il faut avoir une base en Europe, donc on ne fait pas que du financement, hein, mais quand on fait des demandes de financement pour des projets, en général il faut être basé en Europe. Donc en France en particulier, c'est pour des fondations ou des organisations françaises, mais en général, ils demandent d'avoir un siège social en Europe. Et donc, c'est plus facile en fait, de faire des demandes au nom de Lifetime pour ensuite aider à financer les projets locaux.
Parce que Lifetime, son siège est à Strasbourg,
ouais,
donc dans le Grand Est. Aujourd'hui, on fait une exception. Camille, tu n'es pas Lorraine, mais ça reste dans le Grand Est.
Voilà. mais oui, voilà, en fait, c'est juste le... Là, ça facilite les choses, ça permet de soutenir des projets qui sont nécessaires, qui ne recevraient pas autant de financement s'ils n'avaient pas de partenariats occidentaux. Et ouais, c'est juste vraiment pour s'assurer que c'est des besoins locaux et pas de l'imposition de nos idéaux, quoi.
Ben, la preuve pour montrer que ce partenariat fonctionne en bonne et due forme, donc Agostino, le directeur de la Jobingo Foundation, a nommé sa petite fille, née il y a 2 mois, Laetitia. Mmh. On a trouvé ça trop mignon et on sait qu'Agostino est extrêmement reconnaissant envers tout ce que Lifetime permet pour cette fondation, permet de faire, permet de financer, etc. Moi, j'ai une autre question, justement, par rapport à ce côté local. Toi, personnellement, ça te frustre pas d'avoir un plus grand impact ? Par exemple, ici, on est en train de construire un lycée pour 100 personnes. Mm-hmm. Tu voudrais pas, le syndrome du sauveur blanc, sauver la Tanzanie et construire une centaine de lycées ?
Non.
Ok.
Non, en fait...
On les laisse tomber. Non.
Déjà, c'est... Bon, là, je suis en solidarité internationale, c'est pas ce que je me vois faire toute ma vie. Ce que je disais, c'est que quand j'ai voulu commencer mes études, je pensais vouloir travailler dans l'humanitaire. En fait, dans ma tête, ce que je définissais comme humanitaire était solidarité internationale. Et maintenant, je travaille en solidarité internationale, mais je préférais faire de l'humanitaire. Donc faire
de la logistique plutôt.
Pas de la logistique, mais dans des situations de crise et d'urgence. Quand c'est vraiment une question de vie ou de mort.
Mais c'était, tu peux pas être médecin. Donc, non. Quel pourrait être ton rôle en situation de crise humanitaire ?
Plus sur tout ce qui est résolution de conflits internationaux, internationaux ou armés.
Donc, pas sur place.
Donc, tu peux être sur place, ça peut être soit de la distribution. Et dans ce cas-là, ce sera pas moi qui gérerai la logistique, je serai juste là pour distribuer de l'aide. Mais sinon, en résolution, ce sera plus du conseil, de la diplomatie, des choses comme ça, mais il faut que tu ailles sur place. Et en général, c'est dans des situations où c'est un peu plus urgente que dans la solidarité internationale. Et on est là pour aider à résoudre un problème, on n'est pas là pour rester sur le long terme. Donc oui, là, en soi, on se dit que c'est que 140 élèves, mais déjà, c'est 140 élèves par an. Après, c'est sur des cursus de plusieurs années, mais voilà, on se dit que sur le long terme, le lycée, il est solide, il est là pour rester, hein. Ça va aider quand même beaucoup de personnes, qu'il y a un effet boule de neige. Donc on va aider 140 élèves, mais ça va aussi aider leur famille par le fait qu'il y a la construction d'une cuisine, il y a de la permaculture, donc il y a un accès à une nutrition équilibrée, régulière. Il y a de l'accès à l'eau potable, ce qui est quand même très très rare en Tanzanie d'avoir de l'eau potable qui sort du robinet.
Eau potable et panneaux solaires, etc., qui ont été installés par des volontaires de Lifetime, je crois.
Par des volontaires de Lifetime ou par du mécénat de compétences, où des fois on a reçu des financements. Par exemple, les panneaux solaires, on a reçu des financements de EDF et de Synergie Renouvelable. Et c'est ensuite une entreprise locale qui les a installés.
Et est-ce que tu peux me rappeler quels sont ces jeunes qui sont venus de Strasbourg, qui sont venus aider aussi à tout ce qui est logistique, des infrastructures ? Je pensais que c'était pour les panneaux solaires.
Non, il y en a qui sont venus pour la construction, et après ils sont pas de Strasbourg, je crois, Pingouins sans frontières. C'est une association d'une école d'ingé, je pourrais plus
dans
le
Grand Est.
je suis pas sûre que ce soit le Grand Est, justement. Okay. Et qui ont aidé à construire le poulailler. Donc en général, on a pas mal de partenariats avec des assos étudiantes. Donc il y en a de Strasbourg, mais il y en a aussi d'autres régions ou d'autres villes et qui vont chercher des financements. En fait, ils vont se mettre un projet, chercher des financements et aider à la construction en général sur place ou à faire des plans, des choses comme ça. Mais voilà, donc oui, ce que tu disais, on a de l'eau potable, on a des panneaux solaires qui vont rester, donc ça limite la pollution. Donc ça devrait normalement un peu alléger le système, tout ce qui est santé, hôpitaux, etc. Parce que s'il y a une meilleure nutrition, un meilleur accès à l'eau, forcément les gens tomberont moins malades. Et ensuite, l'idée aussi, c'est que on développe des filières qui sont toutes des filières qui embauchent en Tanzanie. Voilà, on ne s'est pas dit... on va créer, on en rigolait tout à l'heure, de se dire on va créer une filière de sciences politiques. C'est pas ce qui embauche le plus en Tanzanie, donc non, on va pas créer une filière de sciences politiques.
Bah, justement, ici on va construire un lycée qui est pas général mais professionnel, ouais. Avec 4 filières, dont le tourisme durable, les énergies renouvelables, l'administratif et l'informatique, et Quelque chose qui va toucher à la permaculture, si je dis pas de bêtises, j'en oublie toujours une, c'est horrible, mais est-ce que tu peux nous préciser la pertinence de la création d'un lycée professionnel plutôt que général ici dans la campagne en Tanzanie ?
Ouais, bah en fait, donc là, dans la campagne en Tanzanie, il y a très peu de lycées et il y a beaucoup de unemployment, de chômage, et en fait, les gens ont tendance à migrer vers la ville. En général, pas vivre dans des situations vraiment meilleures parce que, au moins dans les zones rurales, la plupart des gens vivent de l'agriculture vivrière, alors qu'en ville, c'est pas une possibilité. Donc, si t'as pas d'argent, tu te retrouves à la rue. Ici, il y a très peu de gens à la rue en fait, au final. Et voilà, tout le monde a. Je dis pas que tout le monde mange à sa faim et mange très très bien, mais voilà, tout le monde a un toit, des vaches, des champs et quelque chose pour se nourrir.
Dans un mode de vie sain, qui plus est, parce que dans les villes, c'est vrai que c'est très pollué.
Voilà.
Il y a des déchets partout. Ici, c'est vraiment comme je le décrivais avant avec un peu d'humour, c'est un cadre bucolique. On est au milieu de la forêt, au milieu des montagnes, au milieu des parcs nationaux. L'air n'est pas pollué, on a toutes les deux plus de boutons. c'est fou, on voit clairement la différence entre la ville et la campagne.
Ouais, voilà, et en fait, pour éviter donc justement que... Parce que le problème, c'est que si tout le monde quitte la campagne ne va pas du tout se développer et ça va pas aider les choses. Donc, idéalement, le fait de créer un lycée professionnel, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir travailler directement après et de ne pas avoir besoin d'aller à l'université. Donc, soit parce qu'ils viennent de familles plutôt vulnérables, qui n'ont pas énormément d'argent, qui ne peuvent pas se permettre qu'ils fassent des études supplémentaires, mais qui, du coup, pour au moins se permettre qu'ils aillent au lycée. On a aussi un système de bourse pour les familles les plus pauvres. Mais ouais, en fait, c'est juste que le taux de chômage est super élevé. Et en plus, l'âge moyen en Tanzanie est de 18 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui sont des enfants. Et donc, c'est pour ça que c'est important que les enfants reçoivent une éducation et qu'ils puissent ensuite avoir une activité économique plutôt que partir vers la ville et risquer de se retrouver à la rue parce qu'ils ne vont pas spécialement trouver quelque chose.
Il y a aussi une question de parité des femmes. Le lycée va accueillir 60... compte accueillir, espère accueillir que 60% d'élèves filles et 40% de garçons au moins.
Ouais. Donc en fait, on se dit pourquoi pas faire 50-50 pour compenser justement le fait que dans la plupart des écoles, c'est plutôt l'inverse. Il va y avoir beaucoup plus de garçons que de jeunes filles. Quand en école primaire, en général, en Tanzanie, c'est assez égal. C'est à partir du collège et lycée que ça se complique.
Pour quelle raison ?
Malheureusement pour le mariage très jeune, le mariage forcé, les grossesses précoces aussi. Donc on est dans un pays qui est quand même assez
touché par ce genre de problématiques.
Touché par ce genre de problématiques, mais
que nous en tant que white saver, on voit comme assez primaire, assez problématique quoi.
Mais en fait, c'est aussi le problème, c'est un pays qui est enfin, problème. C'est pas la façon de le dire, c'est un pays très religieux. Donc, si une jeune fille tombe enceinte jeune, il faut qu'elle se marie. Et c'est aussi un pays où il est difficile d'avoir accès aux moyens de contraception.
Bah c'est vrai que le sida, en plus, c'est la première cause de mortalité, ou en tout cas une des premières causes de mortalité ici en Tanzanie. Donc,
c'est pour ça, en fait, qu'il y a un risque qu'une jeune fille tombe enceinte, qu'elle doit se marier. Et une fois que t'es mariée, malheureusement, en Tanzanie, t'as pas spécialement le temps pour tes études. Et puis même de manière générale, en fait, pour les parents, c'est plus rentable d'investir dans l'éducation de leur garçon parce qu'ils ont plus de chances de continuer à travailler, d'avoir un business derrière et les femmes vont probablement finir femme au foyer surtout dans les zones rurales et dans les familles les plus pauvres. Donc c'est pour ça qu'on disait pour compenser le manque dans les autres écoles, on voudrait qu'il y ait plus de filles ici. Et voilà, comme tu disais, on a des filières en IT, on a des filières en électricité renouvelable, donc c'est pas spécialement des électrices féminines, mais l'idée c'est de pas faire de discrimination dessus, quoi, de pouvoir accéder. Ouais.
Alors, écoute, Camille, c'est bientôt la fin, mais via cette interview, on souhaite faire un appel aux dons, parce que ce lycée, ça fait presque 4 ans maintenant que le projet est lancé et qu'on n'a toujours pas fini parce qu'on est en manque de financement, même si Lifetime Project nous aide beaucoup à financer. D'ailleurs, c'est toi ce que tu fais, tu réponds aux appels à projets, etc. Pour l'instant, la cantine, les toilettes ne sont pas construites, le bâtiment administratif, pas entièrement. Donc voilà, on fait un appel aux dons, vous pouvez répondre justement à cet appel aux dons sur le site internet de Lifetime Project, qui, encore une fois, est le plus grand financeur des projets locaux, partenaires donc à l'international. Voilà, merci Camille.
Merci à toi.